Europe 1.
Bonjour à tous. Changement de tête, sommet de l'État, le maire du Havre, 170 000 habitants, cède la place au maire de Prades, 6200.
Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bon.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats.
La lumière, Jean Castex va pourtant devoir s'y habituer aux fonctionnaires sans jamais avoir été ministre ou parlementaire, totalement dépourvu de poids politique et de notoriété. Castex remplace un homme devenu plus populaire que le président et dont beaucoup de Français ne comprennent pas le départ. Mon premier invité sera l'eurodéputé Gilles Boyer, un très proche d'Édouard Philippe. Il a été son conseiller à Matignon. Ils ont écrit deux romans ensemble. Il va tenter de nous expliquer ce tournant du quinquennat Macron. La politique encore au travers des grands discours présidentiels. Comment ils se sont fabriqués? Qui les a écrits? Le journaliste Michaël Moreau a rencontré tous les paroliers de président pour son livre « Les plumes du pouvoir, exploration passionnante de l'histoire politique récente ». Enfin, la Chine qui renforce son emprise sur Hong Kong sans aucun égard pour les critiques venues du monde entier et faisant souffler un vent de panique chez les Hongkongais qui voient dans cette prise en main la fin de leur liberté démocratique. Le spécialiste de la Chine, Jean-Philippe Béja, sera avec nous en fin d'émission.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Gilles Boyer.
Bonjour Patrick Cohen.
Emmanuel Macron, Édouard Philippe, lequel des deux a quitté l'autre?
Je crois qu'on peut parler de commun accord et je pense que c'est une expression qui peut s'appliquer. Alors ça étonne tout le monde parce qu'évidemment, on a quand même comme manie de chercher qui est responsable, qui est coupable ou qui a décidé. Évidemment, c'est la décision du président de la République de conserver ou de changer son premier ministre. Et c'est d'ailleurs très normal et très naturel sous la Ve République. Je pense qu'il faut dédramatiser ce genre de décision.
Oui, sur le plan pratique, c'est toujours le président qui décide.
Oui,
même si formellement, c'est le premier ministre qui remet sa démission.
Oui, il a remis la démission de son gouvernement comme le veut l'usage après les élections municipales. Mais vous savez, le président de la République avait annoncé un nouveau chemin, une réinvention. Et il est aussi logique que ce nouveau chemin et cette réinvention s'incarnent par des nouveaux visages. Parce que si ce matin, Édouard Philippe était confirmé dans ses fonctions, vous me diriez probablement, mais au fond, le président a annoncé une nouvelle politique, mais on prend les mêmes et on recommence.
Non, je ne vous dirai rien du tout.
Vous ne me direz rien du tout, pardon d'en présumer.
Mais ce que vous me dites, c'est que c'est bien Emmanuel Macron qui s'est séparé d'Édouard Philippe et pas l'inverse.
Emmanuel Macron a estimé que le nouveau chemin devait s'incarner par un nouveau visage. Et je pense qu'Édouard Philippe a intériorisé depuis plusieurs jours et semaines que c'était une possibilité. Je pense que si le président lui avait demandé de continuer, Édouard Philippe aurait continué avec plaisir, avec énergie, avec détermination. Et je le crois aussi très heureux ce matin de retrouver les Havraises et les Havrais et de se reconsacrer à sa ville. Donc vous voyez, parfois dans la vie, il n'y a pas de drame. Je sais que beaucoup de gens cherchent à en créer là où il n'y en a pas.
Oui, il n'y a pas de drame, mais il y a des chemins qui se séparent. Et quand on parle d'un commun accord ou d'un consentement mutuel, comme d'ailleurs pour un divorce, ça veut dire que les désaccords sont partagés et qu'il y avait des désaccords, Gilles Boyer.
Là aussi, depuis 3 ans, j'ai entendu beaucoup de choses et on cherche des désaccords entre l'Élysée et Matignon depuis 3 ans. Je vais vous dire une chose, on confond souvent les échanges et les discussions que peuvent avoir deux hommes qui se trouvent être au sommet de l'État sur des sujets compliqués, avec des approches parfois différentes. Tiens, moi je ferais comme ci, ben moi je ferais plutôt comme ça, ou je nommerais un tel, ou je nommerais un autre. Mais ça, c'est pas des tensions, Patrick Cohen. C'est des échanges, c'est des discussions comme on en a dans la vie, comme vous en avez dans votre rédaction, comme on en a dans nos familles.
Ou je préférais avoir un tel au ministère de l'Intérieur.
Oui, exactement, mais ça c'est la vie, vous voyez, c'est la vie.
On Darmanin, Pechnard plutôt que Castaner.
Oui, on a tous nos amitiés, nos préférences, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des tensions, vous voyez, je trouve qu'on utilise tout de suite des grands mots. Bon, et Édouard Philippe a toujours dit depuis 3 ans, il n'y a qu'une seule ligne.
Oui.
Par définition, il n'y a qu'une seule ligne. Oui. Bon. Et donc ils se mettent d'accord, ils échangent, l'un convainc l'autre, l'autre convainc l'un, et puis à la fin, on exécute la décision qui est prise.
Oui, c'est mieux de le dire, parce qu'on se souvient de la formule d'Édouard Philippe, il n'y a pas le début du commencement de l'épaisseur d'un papier à cigarette entre moi et le président. En réalité, ça c'est pour la galerie, ça n'existe pas l'accord parfait à ce niveau de responsabilité, mais Gilles Boyer.
Je crois de vous répondre,
voilà,
dire que sur certains sujets compliqués, on peut avoir des manières de raisonner qui sont différentes. Mais je refuse le terme de tension ou de divergence. Ce sont des termes qui sont, à mon avis, exagérés, qui ne reflètent pas la réalité. Oh. Je ne vous dis pas que sur chaque sujet qui existe. On l'approche exactement de la même manière, on a exactement le même avis. Mais heureusement qu'il y a de l'échange et heureusement qu'on s'enrichit mutuellement et qu'à la fin, il y a une décision, il y a une ligne. Et je crois que depuis le début du quinquennat, on n'a jamais donné l'impression d'avoir deux lignes différentes, même si je sais que tout le monde cherche avec beaucoup d'énergie.
Alors très bien, ouais. Il n'empêche pour les Français, je disais tout à l'heure, sans doute beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est pas banal d'avoir un Premier ministre qui part avec comme ça le vent dans le dos, porté par une popularité, une bonne image, le crédit d'une bonne partie de l'opinion de s'être comporté dignement face à des crises sans précédent. C'est ça qui intrigue aussi Gilles Boyer.
Je vais vous dire, j'ai passé 2 ans à Matignon avec Édouard Philippe et j'ai beaucoup observé les duos président-premier ministre depuis que je fais de la politique. Ouais. Quand on est premier ministre, il n'y a pas de bonne solution. Quand on est impopulaire, ça ne va pas. Et quand on est populaire, je vais vous dire, ça ne va pas non plus. Et donc ce qui est en jeu, et d'ailleurs je vois le débat surgir, c'est le débat sur cette spécificité française de cette double légitimité, la légitimité de l'élection du président, la légitimité de la nomination et institutionnelle du Premier ministre. Et de plus en plus, on se rend compte qu'en particulier avec le quinquennat, que cette hiérarchie est quelque chose de baroque. Alors elle contribue à l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République, donc il faut la prendre en compte parce que cette constitution est un chef-d'œuvre d'équilibre des pouvoirs et c'est quand même un chef-d'œuvre à préserver ou en tout cas à modifier avec précaution. Mais c'est aussi, c'est vrai, quelque chose que les Français, je pense, ont de plus en plus de mal à comprendre, d'autant qu'à la fin, c'est au président qu'il demande des comptes.
Donc il est possible, selon vous, de maintenir un couple exécutif aussi déséquilibré, c'est-à-dire avec un Premier ministre populaire et un président qui l'est beaucoup moins et qui devient du coup le fusible de son chef de gouvernement ?
Oui, mais vous savez, vous avez vu aussi, on s'attarde sur les 3 dernières semaines ou sur le dernier mois, mais depuis 3 ans, les courbes de popularité du président et du Premier ministre évoluent de manière extrêmement parallèle. Je veux dire, c'est même frappant. Hein. C'est des courbes qui sont... parce que c'est la politique qui est conduite, qui est à travers eux jugée. Bon. Et là, il y a une distorsion de courbe de popularité. C'est pas le président qui baisse, d'ailleurs, c'est le Premier ministre qui a monté. Une distorsion de popularité qui, à mon avis, est conjoncturelle. Qui est lié à la crise qu'on a traversée, avec probablement, aux yeux des Français, une prime à celui qui incarnait l'opérationnalité par rapport au président qui est plus dans la vision. Et je suis certain qu'aujourd'hui, les Français sont en attente de vision et que ça va se rééquilibrer. Vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si Édouard Philippe était très impopulaire, je ne suis pas sûr que la situation du gouvernement, du président de la République, aurait été meilleure. Vous voyez, c'est quand même... C'est quand même des raisonnements qui me surprennent.
On va parler de la suite dans un instant, après une courte pause avec vous, Gilles Boyer, député européen. Toujours sans carte de parti ?
Sans carte de parti.
Comme Édouard Philippe.
Eh oui.
À tout de suite.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Avec Gilles Boyer, député européen, ancien conseiller d'Édouard Philippe, auteur de 2 livres avec lui, 2 fictions politiques, L'heure de vérité et Dans l'ombre. Il y en aura un 3e, ça fait partie de vos projets, Gilles Boyer ?
Oui, enfin en tout cas on va en parler, on a tous les deux écrit depuis, tout seul, et on a assez envie d'en faire un 3e, oui. Mais je sais pas quand et je sais pas encore comment, mais en tout cas c'est dans nos projets, oui.
Fiction politique aussi, oui.
Probablement un roman, oui, parce que c'est quand même plus rigolo.
C'est plus rigolo, et puis évidemment, ça pourra être alimenté par tout ce que vous avez vécu ces dernières années, qui est particulièrement riche.
Oui, ou pas, enfin en tout cas, je suis certain que ceux qui le liront, ils chercheront des interprétations.
Édouard Philippe ne quitte pas le navire, il restera loyal à Emmanuel Macron, alors on a cette indication donnée par l'Élysée hier, il va aider Emmanuel Macron à la consolidation de sa majorité pour 2022. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, j'ai lu ça. Je crois qu'aujourd'hui, Édouard Philippe quitte Matignon. Il va se faire réélire maire du Havre demain. Et donc, sa priorité, je crois que c'est ça pour le mois de juillet. Probablement que le mois d'août, comme l'indiquaient ses boutons de manchette d'hier en forme de tong, seront consacrés à prendre un peu de repos bien mérité. Et ensuite, je pense que le président élu aura l'occasion d'échanger sur ce qui a été en effet envisagé hier et de savoir la forme que ça peut prendre à la rentrée. Oui.
Une forme partisane, non ? Ça veut dire quoi ? La constitution d'un pôle présidentiel, une union, un rassemblement des forces politiques pour la réélection du président Macron ?
J'ai un peu de mal à vous répondre parce que je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, mais j'imagine que ça reflète une réflexion sur le dispositif politique autour du président et évidemment dans la perspective de la préparation de la campagne présidentielle.
Jean Castex, vous le connaissez?
Oui, je ne le connais pas aussi bien que je connais Édouard Philippe, mais je connais bien Jean Castex, oui. Je l'apprécie beaucoup. J'entends beaucoup de commentaires sur lui de la part de beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Je trouve qu'on a le droit de lui laisser sa chance,
oui.
D'apprendre à le connaître. Les Français vont apprendre à le connaître. Comme dit Jean-Pierre Raffarin, la notoriété, elle est réglée dès lors qu'on est nommé à Matignon. Donc les Français vont le découvrir.
Mais elle est encore plus faible, la notoriété de Jean Castex, que celle d'Édouard Philippe au moment de sa nomination.
Bah ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'instrument de mesure, mais enfin, j'entends sur Jean Castex exactement les phrases que j'entendais sur Édouard Philippe il y a 3 ans. Savoir, il n'existera pas, c'est le signe que Matignon est affaibli, etc. Et moralité, ça ne se vérifie pas toujours. Jean Castex, c'est avant tout un élu local, je le rappelle. Ouais. Hein, c'est un homme politique, d'accord? C'est un homme politique.
Oui, mais qui sans poids politique et sans le poids que pouvait avoir Édouard Philippe.
Mais là, vous voyez, on rentre dans la... Vous en présumez, Jean Castex, c'est un homme de caractère. Si vous demandez aux élus et aux ministres qui ont eu affaire à lui dans le cadre du plan déconfinement, si vous pensez que c'est quelqu'un qui se couche, vous vous trompez. C'est un homme de caractère, c'est un homme qui... C'est intéressant, tous ceux qui le connaissent disent du bien de lui. Et tous ceux qui ne le connaissent pas en disent du mal, c'est quand même intéressant. Dans tout ce qu'il a fait dans le passé, la gestion du dossier des Jeux Olympiques, qui est un dossier d'une complexité absolument abominable, technico-administrative, il a fait l'unanimité. Dans le plan déconfinement, tout le monde a reconnu la qualité de son travail. Donc laissons-lui sa chance.
Bon, très bien, il gagne à être connu.
Je vous l'assure.
C'est entendu, mais il n'empêche, on ne voit pas bien ce que pourrait faire Jean Castex et que ne pouvait pas faire Édouard Philippe, sauf à être plus docile, à se comporter davantage comme un collaborateur, comme un exécutant.
Là encore, ce sont des phrases que j'ai entendues à l'identique il y a 3 ans pour Édouard Philippe, et aujourd'hui, plus personne ne dit que Édouard Philippe était un simple collaborateur exécutant. La preuve, vous m'avez dit dans notre entretien il y a 5 minutes qu'il y avait des tensions, des divergences. Alors il faut choisir, soit il y a des tensions, des divergences, soit c'est un collaborateur, mais ça ne peut pas être les deux, vous voyez. Bon, donc je crois que là aussi, laissons Jean Castex s'installer dans la fonction. C'est évidemment pour lui un défi majeur dans un moment très particulier de l'histoire du pays. Mais moi, je suis très heureux en tant que citoyen de le savoir à la barre.
Alors, je vais vous poser une question et je vais vous demander une appréciation politique. Gilles Boyer, est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, de remettre sur la table la réforme des retraites?
Écoutez, d'une manière générale, je crois que le président a dit qu'il fallait revisiter... il fallait revisiter l'ensemble des réformes qui étaient prévues avant la crise du Covid et qu'on ne peut pas raisonner à l'identique. Dans son interview à la presse quotidienne régionale, il a réaffirmé son souhait de mettre en œuvre la réforme de retraite qui était annoncée dans son programme présidentiel, hein, régime unique, la fin des régimes spéciaux. Et ça, je crois qu'il a dit très clairement que ça restait à son agenda. La question ensuite du financement de tout ça, j'ai compris aussi qu'il avait laissé la porte ouverte à la discussion, à la négociation. Bon. Mais je crois que la réforme des retraites est à l'agenda de Jean Castex.
Édouard Philippe peut être un recours pour la majorité?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les étagères sont peuplées de recours. Hein, bon. En tout cas, ce que je sais, et Édouard Philippe l'a dit et le redira, c'est qu'il a envie d'aider Emmanuel Macron à être réélu en 2022. Et donc je m'en tiens à ça parce que ça me semble suffisamment limpide et ça ne mérite pas d'être commenté.
Et si le président n'est pas en situation de se représenter, c'est arrivé?
Vous pensez que c'est l'hypothèse la plus probable, Patrick Cohen?
Non, je note que c'est arrivé.
Eh bien écoutez, le jour où ça arrivera, on en reparlera.
Gilles Boyer.
Mais je n'y crois pas beaucoup.
On va continuer de parler politique et de l'histoire de quelques grands discours qui ont marqué l'histoire. On va accueillir le journaliste Michaël Moreau qui a fait parler toutes les plumes du pouvoir. C'est le titre de son livre passionnant, on en parle dans un instant.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Le samedi de 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec l'eurodéputé Gilles Boyer et un journaliste qui a fait parler les paroliers des présidents. Bonjour Michaël Moreau.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Plomb les plumes du pouvoir. Tous les discours ont une histoire. C'est un très bon livre d'histoire politique avec des dizaines d'anecdotes qui sont bien plus que des anecdotes parce qu'elles permettent de comprendre, de cerner les stratégies, les opportunismes, les méthodes de travail, les jeux d'influence et les caractères de nos présidents, de Gaulle à Macron. Pour tous ceux qui s'intéressent à la politique et à sa fabrication, c'est un livre essentiel et passionnant. Toutes les plumes, ou quasiment toutes les plumes présidentielles, vous ont parlé sans réticence, Michaël Moreau.
Oui, il y a eu plus de difficultés pour Emmanuel Macron, parce que c'est le quinquennat est en cours, finalement, les plumes actuels et passés d'Emmanuel Macron m'ont parlé. Et puis après, plus les présidents étaient anciens, plus c'était compliqué pour De Gaulle. C'était plus difficile d'avoir des témoignages.
Les plumes et les conseillers, les entourages qui ont Exactement. Contribué au discours ou les ont relus, corrigés, oui. C'est un aspect important. Hein.
Oui, parce que c'est presque parfois une industrie, la fabrication des discours à l'Élysée ou à Matignon, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a même de plus en plus au fur et à mesure de la Ve République. Et donc, il y a nécessité d'avoir beaucoup de plumes, avec une contrainte aussi supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, finalement, de se tromper dans un discours, là où avant, ça se voyait un peu moins. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a les d'information oui. continue. Par exemple, Christine Albanel qui a écrit des discours pour Jacques Chirac.
Elle dit j'ai mis beaucoup de bêtises dans les discours de Chirac.
Elle dit qu'elle a parfois mis des chiffres, elle n'était même pas sûre des chiffres. Et oui. elle le dit sans embâche dans le livre. Aujourd'hui, c'est évidemment pas possible.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les bons discours qui sont racontés dans ce livre, il y a aussi des grands discours ratés. Exemple.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Jacques Chirac, en avril 97, c'est Christine Albanel, future oui. ministre de la Culture, qui était chargée de la corvée, oui. et qui vous raconte la réaction de Chirac quand il découvre ce qu'elle lui a écrit.
Oui, en fait, il se dit, mais on ne comprend pas finalement pourquoi je dissous. Et elle répond, c'est bien le problème. En fait, c'était mission impossible, oui. ce discours, puisque à la base, il y avait une décision qui n'était pas bonne.
Il y avait un vice de fabrication originelle, effectivement, et Jacques Chirac s'en rend compte à la lecture du discours qu'on lui a écrit. Jacques Chirac, qui n'écrivait rien lui-même, pas une ligne, mais qui organisait de laborieuses séances de relecture dont les auteurs de discours gardent un souvenir
Exactement,
pénible.
Exactement, au Salon Vert de l'Élysée, souvent le dimanche après-midi, s'il s'ennuie le dimanche après-midi, il convoque ses conseillers, ça dure des heures, il relit à voix haute, c'est souvent très pénible pour l'auteur du discours, qui était souvent au début de son premier mandat, Christine Albanel, puisque chaque conseiller pinaille sur un mot, une virgule. Dominique de Villepin, quand il était secrétaire général, était très en verve, donc ça provoquait des gros clashs entre Christine Albanel et Dominique de Villepin, et ça durait des heures.
Une industrie, avez-vous dit, Michael Moreau. À l'inverse, certains discours ont marqué quand ils étaient le produit d'une intuition ou d'une improvisation, et peut-être à cause de ça. Exemple avec la conclusion d'un des grands discours européens de François Mitterrand, c'était devant le Parlement de Strasbourg le 17 janvier 1995.
Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre.
Le nationalisme, c'est la guerre, c'est pas dans le texte.
Non, c'est un discours qui a aussi beaucoup touché, parce que c'est l'un des derniers discours de François Mitterrand. Il avait un texte qu'il a lu, puis après, il était très malade, donc oui. L'Assemblée était même éprouvée pour ce qu'il pouvait ressentir. Et finalement, à la fin du discours, ça applaudit mollement, mais il reste debout. Il dit cette phrase-là complètement improvisée, et c'est là que vraiment la salle est conquise et que ça a touché, tout le monde.
Les chiens. L'accusation de Mitterrand contre les journalistes lors de l'hommage à Pierre Bérégovoy, toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme,
C'est de Mitterrand lui-même, dans le Paris Nevers, en fait, ça s'est fait dans le train, avec une discussion aussi avec Michel Charasse, qui parle des détracteurs de Pierre Bérégovoy en disant ce sont des rats. François Mitterrand qui le reprend, non, ce sont des chiens, qui l'écrit sur un petit bout de papier, format carte de visite, et il fait son discours, cette phrase-là, à partir de ça, et la carte de visite est longtemps restée sur son bureau. Aujourd'hui, elle est chez Anne Lauvergeon, qui était conseillère également de François Mitterrand.
Qui l'a récupérée et qui vous dit, ça m'a soulagé de l'enlever du bureau de Mitterrand.
Exactement, hein. Parce que les relations entre François Mitterrand et Pierre Bérégovoy n'étaient pas proches, mais ce que raconte Anne Lauvergeon, c'est que c'était quand même le suicide de Pierre Bérégovoy était quand même très lourd pour le président de la République, et elle a fini par prendre le papier.
Gilles Boyer, quel discours a marqué votre vie de citoyen, de militant?
D'abord, c'est le métier de plume, c'est un des métiers les plus durs, les plus méconnus, les plus difficiles du monde politique. Et ce qui m'a toujours frappé dans la carrière des hommes politiques, c'est que les phrases qu'on retient d'eux, c'est rarement celles qu'ils ont choisies. Et c'est rarement celles qui figurent dans des discours écrits à l'avance, à leur corps défendant d'ailleurs. Donc, évidemment, il y a des grands discours. Vous en avez rappelé, certains. D'abord, les Français peuvent se demander, mais au fond, donc ça veut dire que les hommes politiques n'écrivent pas leurs discours eux-mêmes. Déjà, c'est pour certains, ça peut être une découverte. Et je dois dire à ça que si les hommes politiques devaient écrire leurs discours, ils ne feraient que ça, parce que ça prend un temps fou. Et donc, le processus d'écriture d'un discours, j'ai travaillé avec Alain Juppé. Alain Juppé, à ses débuts, c'était la plume de Jacques Chirac. Vous avez parlé de bien avant qu'il soit président. Bon. Et donc, lui, il racontait ça. Il racontait ses séances qui durent des heures de relecture. Chirac qui était très, très, très maniaque, et à bon droit d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment un métier qui a marqué tous ceux qui l'ont exercé. Et c'est un métier incroyablement difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un, de trouver les mots de quelqu'un. Et donc, le processus, il est, bon, l'homme politique donne ses orientations, voilà ce que je veux dire. Et puis après, c'est un peu débrouillez-vous.
Hein, et puis on est corrigé.
Bon. Et puis évidemment, on est corrigé, on est censuré. Il y a des gens qui passent après pour vous corriger une formule de style. Alors c'est très désagréable, il faut vraiment avoir un caractère bien trempé, alors que souvent c'est des gens qui ont un talent de plume exceptionnel. Mais vous savez, j'adore écrire, j'ai écrit quelques discours, mais je veux pas faire ça. C'est trop difficile, c'est vraiment trop difficile.
Alors ça, c'est le témoignage de l'homme de l'ombre, mais oui. Ma question c'était...
Ah oui, pardon, je ne vous ai pas répondu.
Moi, non, c'est pas grave, un grand discours qui vous a marqué, ou un ou plusieurs.
Je ne sais pas s'il y en a un qui me vient, il y a évidemment le discours de Dominique de Villepin à l'ONU sur la guerre d'Irak, qui marque les esprits. Moi, ce qui m'a toujours frappé, notamment chez De Gaulle, c'est le fait qu'il apprenait ses discours par cœur. Vous vous rendez compte, quelle période incroyable, quelle période révolue, le temps qu'il consacrait à apprendre ses discours par cœur pour se les approprier, les réciter sans erreur, aussi sans doute par coquetterie de ne pas porter ses lunettes. Enfin, il y avait plein de choses derrière tout ça, mais quelle époque, c'était magnifique. Et d'ailleurs, même ses conférences de presse, qu'on croit improvisées, en fait, il avait tout préparé à l'avance. Je réponds du fond de la salle à la question qui ne m'a pas été posée. Vous voyez, ça, c'est des formules comme ça, c'est extraordinaire.
Ah, bien sûr, qui était porté par un don oratoire évident, mais qui a été aidé aussi par un comédien, vous le racontez dans le livre, Michael Moreau,
Jean-Yonel de la Comédie française. Pour apprendre à partir de 58 un petit peu à mieux parler, à avoir plus d'aisance.
Michael Moreau, Gilles Boyer, on poursuit cette exploration des grands discours politiques avec vous dans un instant.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1,
c'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec le député européen Gilles Boyer et le journaliste Michael Moreau, auteur des Plumes du pouvoir chez Plon, avant un discours très attendu, le discours de politique générale que doit prononcer la semaine prochaine le nouveau Premier ministre Jean Castex. Redoutable épreuve et de surcroît pour un homme qui n'a jamais été ni ministre ni parlementaire, qui n'a donc jamais pris la parole à l'Assemblée nationale. Il y a quelques rares précédents, Georges Pompidou, Raymond Barre, je ne crois pas en oublier d'autres.
Non, je ne crois pas.
Mais Gilles Boyer, donc, ça rend quand même l'exercice d'autant plus difficile.
Ah bah quand c'est la première fois qu'on rentre dans cet hémicycle en tant que ministre ou Premier ministre, quand on doit affronter c'est ce qui est une arène, on ne voit pas bien à la télé, mais c'est une arène, hein, très verticale, évidemment avec un certain nombre de députés qui ont déjà décidé que ce qu'on allait dire n'était pas terrible, ou pas bien, ou que ça manquerait de souffle, ou que c'est trop long, trop court, ou qu'il manquait ceci ou cela. C'est évidemment un exercice difficile.
La prise de son qui est rendue par la télévision ne rend pas compte de ce qui est vécu à l'intérieur de l'hémicycle, c'est-à-dire un brouhaha, un bruit de fond permanent, les micros sont très directifs, donc on entend bien la voix de l'orateur, mais dans l'Assemblée... On ne l'entend pas quand on est au milieu de l'Assemblée ou sur
le d'ailleurs, les hommes politiques expérimentés ont appris à ne pas réagir aux vociférations qu'on n'entend pas à la télé.
Bien sûr.
Mais quand on est dans l'hémicycle, on a une impression physique très, très différente. Il faut s'y habituer. Et c'est surtout un exercice très difficile parce que déclaration de politique générale, normalement, ça doit tout couvrir, évidemment. Et puis, alors, évidemment, on ne peut pas parler de tout. C'est un exercice compliqué. On demande à chaque ministre sur ton sujet, qu'est-ce que tu veux que je dise, ou chaque conseiller. Ça donne une addition de ce qu'on appelle des briques. Bon, et à la fin, il faut remettre de la cohérence dans cet ensemble. Il y a toujours quelque chose dont on ne parle pas. Donc, le lendemain matin, vous avez quelqu'un qui dit il n'a même pas parlé de ça. Comme si c'était pas une priorité, alors qu'en fait, on peut juste pas parler de tout.
Je peux vous faire la liste par avance. Il n'a pas parlé d'écologie, il a oublié l'outre-mer, on a oublié...
Thierry Pister, d'ailleurs, qui était la plume de Pierre Mauroy, qui raconte que le discours était tellement long au début qu'il a dû... que le Premier ministre a biffé en dernière minute, et par exemple, il a biffé tout le passage sur le droit des femmes. Qu'après, effectivement, ça a été contre-productif.
Oui, parce qu'il y a un truc qui est encore plus dur d'écrire qu'écrire, c'est de barrer. de renoncer.
Les discours de politique générale sont souvent trop
longs.
Oui,
c'est trop long, bien sûr.
Et les discours d'Emmanuel Macron aussi. Vous racontez comment Michael Moreau... à chaque fois, il y a des commandes sur trois quarts d'heure. Et puis
voilà,
ça fait une heure et demie. Voilà, exactement. Et puis, c'est relu à l'Élysée, en plus, les discours de politique générale, forcément.
Évidemment.
Ça passe par l'Élysée. Alors, on revient au grand discours. Je crois le pire du pire pour un responsable politique, c'est le plagiat. C'est la reprise visible des mots d'un autre qui, évidemment, retire toute sincérité au discours. Ce qui est arrivé à Marine Le Pen pour son grand discours d'entre-deux-tours en 2017, ses envolées sur la grandeur de la France, avaient été prononcées à l'identique quelques jours plus tôt par François Fillon.
Il faut la regarder, et regarder pour commencer l'hexagone, merveille d'équilibre. Trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale.
Avec ces trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale.
La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne. S'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome,
c'est que la France est autre chose et bien plus qu'une puissance industrielle, agricole ou militaire.
François Fillon et Marine Le Pen, Marine Le Pen et François Fillon, Michael Moreau, de l'inconvénient de partager la même plume ?
Oui, c'est-à-dire que en fait, elle s'est fait avoir, entre guillemets, par une plume qui est Paul-Marie Couteau, ancien député européen, qui a été plume de François Fillon pendant la campagne présidentielle, puis plume de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, qui a envoyé le même texte sans prévenir. Et c'est évidemment le pire du pire qui puisse arriver, le plagiat. C'est ce qui décrédibilise le plus. En plus, c'était juste avant le fameux débat de l'entre-deux-tours. Ça arrive parfois, le plagiat, à ce niveau-là, c'est quand même exceptionnel. Ça arrive parfois. Même il y a eu des cas de plagiat assez particuliers. Par exemple, Nicolas Sarkozy s'était auto-plagié lui-même, ce qui est encore autre chose à l'Élysée sur un discours sur l'agriculture. Et ce qui est moins grave de s'auto-plagier de moi-même.
Oui, l'effet moins désastreux, évidemment. Partage de plumes, François Fillon a aussi partagé avec Emmanuel Macron une source commune, celle de l'avocat François Sureau, même si Sureau a du mal aujourd'hui à assumer le discours du Trocadéro.
En fait, il y a participé. Il a beaucoup dit qu'il n'y avait jamais participé. François Fillon, dans le livre, dit qu'il a bien participé. La plume de François Fillon, Igor Mitrofanov, dit qu'il a bien participé. Et finalement, il reconnaît, il dit que oui, il y a participé. Notamment sur une phrase qu'il a relue, qu'il a participé à une phrase qui visait notamment Alain Juppé, qui demandait à Alain Juppé, sans citer Alain Juppé, de prendre ses responsabilités.
Examen de conscience, c'est pas ça ? Il y avait examen de conscience à cette phrase. Gilles Boyer, vous vous souvenez bien du discours du Trocadéro ?
Oui, je m'en souviens, c'est bien. Mais d'ailleurs, avec l'histoire, il y a des discours qui ont forcément une centaine d'auteurs, hein, c'est-à-dire ceux qui ont bien marché, et puis il y en a qui n'ont aucun auteur, c'est-à-dire ceux qui ont marqué l'histoire négativement, donc c'est quand même amusant.
D'ailleurs, c'est François Hollande qui raconte très bien ça, que le discours du Bourget, beaucoup de plumes que j'ai vues revendiquent le discours du Bourget, alors que le discours sur la déchéance de nationalité, personne.
Alors, le discours du Bourget, le voici, janvier 2012, discours de campagne qui a eu de multiples contributeurs, mais dont on a retenu une formule, un slogan.
Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Mon ennemi, c'est le monde de la finance. François Hollande, mon adversaire, pardon, au Bourget en janvier 2012. Intuition de campagne géniale devenue boulet présidentiel. Bon. C'est signé François Hollande lui-même.
C'est signé François Hollande, il le dit. Elle est de ma main, mais toutes les plumes qui pourtant revendiquent une part du discours
sont nombreuses.
Affirment que c'est bien, qu'elle est bien de François Hollande et que cette phrase-là, elle est même venue assez tôt dans le brief de François Hollande fait aux différentes personnes qui ont pu contribuer à ce discours.
Beaucoup de contributeurs revendiqués pour ce discours du Bourget de 2012. En revanche, pour celui de novembre 2015, devant le Congrès, discours qui annonce la déchéance de nationalité, il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde.
Il n'y a plus personne. Après, alors ce discours a été aussi on s'aperçoit finalement pas mal délocalisé, c'est-à-dire qu'il a été des conseillers de l'Élysée, évidemment, y ont contribué, mais pas seulement, ça a été beaucoup délocalisé à Matignon, à l'intérieur, ce qui explique aussi peut-être cela, que personne ne revendique vraiment l'histoire.
Gilles Boyer, à vos yeux, qu'est-ce qui fait un bon discours? Et, question plus délicate encore, est-ce que les discours ont encore de l'importance?
Alors, qu'est-ce qui fait un bon discours? Moi, je ne sais pas si j'ai la baguette magique. Il faut la rencontre entre un moment, une circonstance, une phrase qui marque les esprits, pas toujours celle qu'on a choisie, je l'ai dit au début de notre entretien. Ça, c'est une alchimie qu'on peut difficilement prévoir. Et après, est-ce que les discours marquent encore les esprits? Oui, je crois que oui, en particulier en politique, la force du discours. Alors évidemment, à chaque fois qu'on a un beau discours, on vous répond oui, mais il faut des actes. Bon, très bien. Mais enfin, le discours, ça compte, le choix des mots, le moment où on intervient, la manière dont on s'adresse aux Français. Évidemment que c'est déterminant, en positif ou en négatif, dans l'image et dans l'action politique.
Michael Moreau, il y a tout un débat permanent et récurrent sur sur l'utilité et sur le rythme aussi des discours, sur l'intensité ou l'abondance de la parole présidentielle. Est-ce que ça sert à quelque chose de trop parler, de faire des
discours?
Oui,
parce qu'il y en a de plus en plus, notamment aussi après l'instauration du quinquennat, il y a une présidentialisation accrue encore du pouvoir. Le président de la République prononce des discours qui auparavant étaient prononcés par de simples ministres, annonce des plans gouvernementaux, ce qui encore... Et puis il y a de plus en plus de commémorations aussi au fur et à mesure de la Ve République. Donc il y a une inflation des discours qui contribue au fait à ce que certains discours fonctionnent, mais il y en a beaucoup, beaucoup sur lesquels on passe à côté.
Il y a trop de discours, Gilles Boyer ?
Oui, enfin en tout cas, il y a beaucoup de chaînes info, il y a beaucoup de chaînes de radio, et donc il y a beaucoup de discours. Hein, ouais. Aussi, il faut aussi qu'on se regarde.
Ah c'est ça, il faut les alimenter.
Ben, pardon, mais j'ai lu un jour qu'il y avait 600 interviews politiques par jour dans les médias français. Donc, il faut évidemment, ça nourrit. Donc, ça veut dire qu'il faut 600 invités. Non, par mois, pardon. Pas, j'exagère.
Par mois. Oui.
Mais enfin, quand même, ça veut dire que quand j'ai commencé la politique, il y avait très peu d'hommes politiques qui s'exprimaient dans les médias. Hein. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, évidemment, il y a plus de discours.
Michael Moreau, les plumes du pouvoir, tous les discours ont une histoire chez Plon. Gilles Boyer, dont les deux derniers livres parlent de politique, le maître d'hôtel de Matignon et table rase chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'avoir participé
Merci
à cette
beaucoup.
Émission.
Merci à vous.
Dans un instant, la Chine qui prend le contrôle de Hong Kong, le sinologue Jean-Philippe Béja sera avec nous.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Jean-Philippe Béja.
Bonjour.
Sinologue, directeur de recherche au CNRS, la Chine continue d'avancer à marche forcée à Hong Kong avec l'installation d'un bureau de sécurité nationale qui dépend directement du pouvoir central, qui a pour tâche de collecter les renseignements et de poursuivre les atteintes à la sûreté de l'État à Hong Kong. Un homme a été nommé à la tête de ce bureau qui passe pour un homme de l'ordre, un dur à cuire. Les Hongkongais ont des raisons de s'inquiéter?
Oui, tout à fait. Essentiellement en raison de l'adoption de cette loi sur la sécurité nationale qui change complètement les conditions de l'exercice de la formule d'un pays, deux systèmes. Bon, Zhang Yanxiong, effectivement, qui a été le secrétaire du parti dans une région où il y a eu de forts affrontements avec des paysans et qui a adopté une méthode dure, est un dur. Mais le problème, c'est véritablement les institutions qui sont mises en place avec d'abord une loi qui décrit des crimes de façon très très lâche et qui donc fait peser une forte menace sur toute expression d'opinion divergente à Hong Kong, et d'autre part avec l'installation justement de ce bureau de la préservation de la sécurité nationale qui est en fait la garantie pour une certaine police secrète d'intervenir dans le territoire, alors que la loi fondamentale et la déclaration conjointe sino-britannique affirmaient expressément que la police chinoise ne pourrait pas intervenir à Hong Kong. C'est donc véritablement la fin de la formule un pays, deux systèmes qui permettait à Hong Kong de jouir d'un haut degré d'autonomie comme il était inscrit dans la loi.
Et que la Chine avait prévu de maintenir encore
50 ans.
Encore 50 ans. Les oui. Hongkongais ont commencé à faire le ménage sur les réseaux sociaux pour désactiver leurs comptes, migrer vers des réseaux sécurisés, supprimer l'historique. Ils ont vraiment raison de craindre la surveillance qui peut s'abattre, comme sur la Chine continentale.
Alors disons qu'il y a eu une double action actions de la part des Hongkongais. L'une, c'est celle que vous décrivez. L'autre, c'est quand même le jour même de l'adoption de cette loi, de descendre dans la rue malgré l'interdiction de la manifestation du 1er juillet et de descendre en nombre dans la rue. Alors, simplement, je crois que faire le ménage, c'est un moyen de se protéger. Ben, ils ont quand même une bonne expérience de ce qui se passe en Chine et ils savent tout à fait que les téléphones, les ordinateurs peuvent servir à la police pour retrouver des militants, mais je crois que c'est aussi peut-être un premier pas vers l'organisation d'une résistance qui sera peut-être un peu plus discrète. Il faut bien vous mettre dans la tête que ce qui se passe, c'est que à Hong Kong, les libertés qui règnent sont exactement celles qui règnent chez nous, peut-être même un peu plus encore, puisqu'on peut tout dire et tout faire. Mais à partir du 1er juillet, on arrive dans un système qui est beaucoup plus proche du système chinois, où toute expression d'opinion peut être considérée comme un crime. Alors, c'est extrêmement inquiétant pour la plupart des gens qui ont participé à des manifestations. Et rappelons que l'an dernier, une manifestation a réuni plus d'un tiers de la population, 2 millions de personnes un seul dimanche. Et tous ces gens-là pourraient être menacés. Donc, ils sont en train de prendre leurs précautions. Les gens de Hong Kong sont souvent extrêmement pointus sur la connaissance des nouvelles technologies. Et donc, je crois en leur capacité de résister aux attaques de la police chinoise.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un exode, un mouvement d'exode de la part des Hongkongais?
Écoutez, on l'avait déjà vu pendant les négociations sino-britanniques dans les années 80, où il y avait plus de 100 000 Hongkongais qui étaient partis pour le Canada et l'Australie. Alors là, il y a effectivement beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui pensent, qui regardent les possibilités de d'émigrer. Et d'ailleurs, pas seulement les militants politiques, mais un certain nombre de gens pour qui les libertés fondamentales, c'est comme l'air qu'on respire, et qu'à partir du moment où elles sont menacées, ils ne veulent pas que leurs enfants soient éduqués dans un régime totalitaire, et donc ils partent. Oui, il y aura sans doute des gens qui partiront. Écoutez, tout dépend un peu de la manière dont les lois seront appliquées et dont le pluralisme pourra se maintenir ou non à Hong Kong. Et l'un des grands tests extrêmement importants, ce sera les élections à l'Assemblée législative qui doivent se tenir le 6 septembre. S'il y a la possibilité pour des candidats d'opposition de se présenter et d'être élus députés, ce qui serait d'ailleurs le cas s'ils pouvaient se présenter, on verra que ce n'est peut-être pas non plus la fin complète de Hong Kong, même s'il y a une menace très forte. Mais si, en revanche, les candidats sont invalidés avant même de se présenter, alors là, je crois que ça déclenchera encore plus un exode. Oui.
On voit, Jean-Philippe Béjat, que la Chine, le pouvoir, multiplie les terrains d'affrontement avec le reste du monde, sans craindre apparemment ni les condamnations, ni les sanctions internationales. Il n'y a rien qui peut faire bouger le Pékin et le pouvoir chinois?
Vous savez, en tout cas, il fait preuve d'une grande arrogance et se présente comme invulnérable, mais le Parti communiste chinois n'est pas un bloc de granit, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Xi Jinping. Dans ce genre de régime de parti unique, on a toujours des factions. Alors actuellement, on n'entend pas les factions d'opposition s'exprimer, mais ce qui est certain, c'est que si les réactions internationales sont extrêmement fortes et qu'elles affectent la position internationale de la Chine, ça va susciter un certain nombre d'interrogations, y compris à l'intérieur du système. Donc je crois qu'une par exemple, si cela aboutissait à une amélioration du statut diplomatique de Taïwan, ce serait une forte défaite pour Xi Jinping, et on lui demanderait des comptes. Donc je crois que il ne faut pas croire que toute réaction est inutile et que la Chine, de toute façon, n'en tiendra pas compte. Elle a pris ses risques, mais il y a véritablement des risques. Et donc, si le coût est extrêmement élevé, ça risque de nuire aussi à la position de Xi Jinping.
Merci beaucoup Jean-Philippe Béjat d'avoir été en ligne avec nous ce matin, sinologue, directeur de recherche au CNRS. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Poet. Mediapolis, compte tenu de l'actualité, avec un des meilleurs politologues et un ami très cher de Justine Holman, Jérôme Jaffré.
A tout de suite, bonne émission.